Chapitre 7, « Aie donc du zèle et repens-toi. » Chers frères et sœurs, le Seigneur m'a montré dans une vision l'Église dans son état de tiédeur actuel. Tandis que celle-ci m'apparaissait, l'ange lui dit, « Jésus s'adresse à toi et te recommande d'avoir du zèle et de te repentir. » Ces paroles doivent être prises en sérieuse considération, car la spiritualité et la vie du peuple de Dieu se sont évanouies devant la conformité au monde, l'égoïsme et la convoitise. Depuis quelques années, l'Église de Dieu a encouru un grand danger, l'amour du monde. Celui-ci a donné naissance au péché d'égoïsme et de convoitise. Plus on acquiert les biens d'ici-bas, plus on s'y attache et plus on voudrait en obtenir. L'ange reprit, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cependant ils sont nombreux ceux qui professent croire que nous avons mission de faire retentir le dernier avertissement que Dieu donne au monde et qui mettent toutes leurs énergies à se placer dans cette position où il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour eux d'entrer dans le royaume. Les biens de cette terre sont des bénédictions lorsqu'on en fait bon usage. Mais ceux qui les possèdent ne doivent jamais oublier qu'ils les ont reçus de Dieu afin de les employer à l'avancement de sa cause. Ainsi, ils ne perdront pas leur récompense ici-bas, les anges de Dieu les considéreront d'un œil favorable et ils s'amasseront un trésor dans le ciel. Satan remarque le caractère égoïste et cupide de certains de ceux qui prétendent croire à la vérité. Il les tente en plaçant sur leur sentier la prospérité et en leur offrant les richesses de ce monde. Il sait que s'ils ne triomphent pas de leur nature corrompue, ils broncheront et sombreront dans l'idolâtrie, car Mammon sera leur Dieu. L'amour du monde finit par éteindre l'amour de la vérité, ainsi Satan arrive à ses fins. Il a offert les richesses d'ici-bas et on s'en est emparé avec avidité, en pensant qu'on était merveilleusement favorisé. Le triomphe de Satan est alors complet, puisqu'on a abandonné l'amour de Dieu pour l'amour du monde. L'amour du monde. Il m'a été révélé que ceux qui se trouvent ainsi dans la prospérité peuvent contrecarrer les plans de Satan s'ils triomphent de leurs convoitises égoïstes et placent tous leurs biens sur l'autel de Dieu. Lorsqu'ils voient les besoins de l'œuvre du Seigneur, ceux des veuves, des orphelins et des affligés, qu'ils donnent avec joie, et ils s'amasseront ainsi un trésor dans le ciel. Écoutez le conseil du témoin fidèle, achetez de l'or éprouvé par le feu, afin que vous deveniez riches, des vêtements blancs, afin que vous soyez vêtus, et un collier afin que vous voyiez. Mais ces précieux trésors ne seront pas acquis sans quelque effort de notre part. Il est dit que nous devons les acheter, c'est-à-dire avoir du zèle, et nous repentir de notre tiédeur. Il faut nous éveiller et discerner nos torts, nous rendre compte de notre péché, nous en repentir sincèrement. Ceux d'entre nos frères qui sont riches ont beaucoup à faire pour s'arracher à leur richesse et vaincre l'amour du monde. Un bon nombre d'entre eux aiment le monde et ses aises, mais ils ne veulent pas s'en rendre compte. Ils doivent avoir du zèle et se repentir de leur convoitise afin que l'amour de la vérité prenne toute la place. Il me fut montré que bien des riches ne pourront acheter l'or, les vêtements blancs et le collier. Leur zèle n'est pas assez grand. Il n'est pas proportionné à la valeur de l'objet qu'ils recherchent. Avec quelle énergie, quelle ténacité, je les ai vus lutter pour acquérir les biens matériels. Que de froids calculs pour obtenir ce qui doit bientôt s'évanouir en fumée. Ils peinent jour et nuit et font des sacrifices inouïs pour un trésor terrestre. Un zèle semblable pour acquérir l'or, les vêtements et le collier leur apporteraient ce trésor désirable, ainsi que la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Il m'a été montré que c'était eux précisément qui avaient besoin du collier, car leur aveuglement les empêche de se rendre compte de leurs conditions et de leur attachement au monde. Oh ! Puissent-ils enfin voir ? Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. J'ai vu que beaucoup ont entassé tant de décombres à la porte de leur cœur qu'ils ne peuvent plus ouvrir à Jésus. Certaines personnes ont des difficultés avec leurs frères, et elles doivent les régler. D'autres ont un mauvais caractère, des sentiments de convoitise, et tout cela les empêche d'ouvrir la porte. D'autres encore ont placé le monde comme une barricade devant la porte de leur cœur. Tous ces obstacles doivent être enlevés afin que cette porte s'ouvre et que le Sauveur puisse entrer. Dans la vision, il me fut montré combien était précieuse cette promesse, « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Oh, le merveilleux amour de Dieu! Le Seigneur nous fait constater notre tiédeur et nos péchés, puis il nous dit, « Revenez à moi, et je reviendrai à vous, et je réparerai vos infidélités. » À plusieurs reprises, l'ange répéta ces paroles. J'ai vu que certains venaient joyeusement au Seigneur. Mais sur d'autres, le message à Laodicée n'avait aucune influence. Ils l'écoutaient avec indifférence et se conduisaient comme par le passé. Aussi, Dieu les vomissait-il de sa bouche. Seuls ceux qui se repentent avec zèle trouveront grâce aux yeux de Dieu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous pouvons obtenir une victoire complète. Jésus est mort pour nous ouvrir la porte du salut, afin que nous puissions vaincre toutes nos mauvaises tendances, tous nos péchés, triompher de chaque tentation et nous asseoir enfin avec lui sur son trône. La foi et le salut sont notre privilège. La puissance de Dieu n'est pas amoindrie, et j'ai vu qu'elle serait aussi abondamment répandue que jadis. C'est l'Église de Dieu qui a perdu la foi et l'énergie nécessaire au combat, et qui ne dit plus comme Jacob, « Je ne te laisserai point aller. Que tu ne m'aies béni. » La foi persévérante a disparu. Elle doit revivre dans le cœur du peuple de Dieu. Il faut supplier le Seigneur pour recevoir ses bénédictions. La foi vivante s'élève toujours vers la gloire de Dieu. Le doute nous entraîne vers les ténèbres et la mort. Fausse difficulté. Il m'a été montré que certains de nos frères et sœurs avaient leurs pensées mal orientées. Ils jugeaient leurs frères d'après les notions qu'ils s'étaient forgées eux-mêmes. Si quelqu'un n'agissait pas d'après leurs idées, il mettait immédiatement le trouble dans l'église. Il coulait le moucheron et avalait le chameau. On s'est trop longtemps complu à ce genre de choses. On a concentré son attention sur des vétillés, lorsqu'il n'y avait pas de vraies difficultés dans l'église, on en a inventé. Les âmes sont ainsi détournées de Dieu et de la vérité et végètent dans les ténèbres. Satan se réjouit de voir un tel esprit régner parmi nous. Mais ce ne sont pas de telles épreuves qui purifieront l'Église et qui finalement accroîtront la force du peuple de Dieu. J'ai vu que certains d'entre nous avaient une piété languissante. Ils ont passé leur temps à surveiller leurs frères et sœurs, guettant chacune de leurs fautes afin de susciter du désordre. En agissant ainsi, ils ont détourné leurs pensées de Dieu, du ciel, de la vérité, et les ont dirigés là où Satan le désirait. Ils ont négligé leurs âmes. Ils voient rarement leurs propres fautes, car ils sont trop préoccupés de celles des autres pour sonder leur cœur. Le vêtement de celui-ci, le chapeau de celle-là, voilà ce qui retient leur attention. Ils en parlent à l'un ou à l'autre, cela suffit à les occuper pendant des semaines. J'ai vu que toute la religion de ces pauvres âmes consiste à observer les vêtements et les actions des autres afin d'y trouver à redire. Si ces gens ne changent pas, il n'y aura pas de place pour eux dans le ciel, car ils y critiqueraient le Seigneur lui-même. L'ange dit, pour être en règle avec Dieu, il faut s'occuper d'abord de soi. Mais lorsque certaines personnes se préoccupent tellement des fautes d'autrui, il leur reste peu de temps pour s'occuper d'elles-mêmes. Ces découvreurs de tort seraient souvent guéris de leur habitude s'ils s'adressaient directement à la personne qu'ils pensent être en faute. Cela leur paraîtrait si difficile qu'ils préféreraient abandonner leurs idées mesquines. Mais il est aisé de laisser aller sa langue et d'accuser telle ou telle personne en son absence. L'ordre dans le culte. Certains pensent que c'est une erreur d'observer un certain ordre dans le culte. Mais il m'a été montré que ce n'est pas un danger d'avoir de l'ordre dans l'Église de Dieu. J'ai vu que la confusion déplaît au Seigneur et qu'il faut de l'ordre dans la succession des prières et des chants. Nous ne devrions pas venir à la maison de Dieu pour prier en faveur de nos familles, à moins qu'un sentiment profond nous y pousse, sous l'influence de l'Esprit de Dieu. En règle générale, le lieu propice pour ce genre de prière est le culte de famille. Quand l'objet de nos prières est éloigné, il faut plaider avec Dieu dans le silence de notre chambre. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, prions pour recevoir des bénédictions immédiates et nous pourrons espérer alors que Dieu nous entendra et nous répondra. De telles réunions seront vivantes et profitables. Il m'a été montré que tous devraient chanter sous l'influence de l'Esprit, et avec intelligence. Dieu ne se plaît pas au jargon et aux dissonances. C'est dans la mesure où nos chants seront justes et harmonieux que Dieu sera glorifié, que l'Église sera bénie et que les étrangers seront le plus impressionnés. J'ai vu l'ordre parfait qui règne dans le ciel, et, en écoutant la musique céleste, j'étais plongé dans l'extase. Lorsque je revins de ma vision, la façon de chanter de l'Église me parut rude et discordante. J'avais vu des anges qui se tenaient en carré, ayant chacun une harpe d'or. À l'extrémité de la harpe, il y avait un appareil pour l'accorder. La main des anges ne glissait pas avec indifférence le long des cordes, mais avec la plus grande précision. Il y avait un ange conducteur qui touchait le premier de la harpe et donnait la note. Puis tous unissaient leurs instruments en une harmonie puissante et parfaite. Cela est impossible à décrire. Cette musique est mélodieuse, céleste, divine, cependant que le visage de chaque instrumentiste reflète l'image de Jésus et brille d'une gloire indicible. Le peuple de Dieu ne doit pas être un peuple de confusion parmi lequel manque l'ordre et l'harmonie, l'esprit de suite et de beauté. Le Seigneur est grandement déshonoré lorsque règne la désunion. La vérité unit. L'unité que Dieu réclame doit être cultivée chaque jour si nous voulons répondre à la prière du Christ. La désunion qui cherche à se glisser parmi ceux qui professent croire au dernier message de miséricorde de Dieu au monde ne doit pas y trouver sa place. Car ce serait une terrible entrave à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ses serviteurs doivent être un, comme le Christ et le Père sont un. Il faut que leurs facultés empreintes de la lumière de l'Esprit et de la sainteté céleste s'unissent en un tout harmonieux. Ceux qui aiment Dieu et gardent ses commandements ne doivent pas aller chacun de leur côté, mais serrer les rangs.